prochain, s'il vous plaît. Il y a encore quelques places devant pour ceux qui veulent. Voici le temps de notre conférence. Elle va se dérouler comme ça. Les mots qui vont suivre, c'est-à-dire que dans un premier temps, nous allons écouter deux témoignages, celui de Marie-Pierre Brière, qui est aumônier à l'hôpital aumônière, à l'hôpital Nord, et Jean-Jacques Roland, qui nous fera part de sa propre expérience d'accompagnement auprès de son épouse et de ses réflexions. Et dans un troisième temps, donc ces témoignages dureront une dizaine de minutes chacun ou un peu plus. Et dans un temps suivant, le docteur Hervé Mignot, ici présent, abordera avec nous quels enjeux autour de la demande d'euthanasie, sujet qui va devenir prégnant dans les semaines à venir. Donc le docteur Hervé Mignot est médecin. Après ses études, il a participé à plusieurs expéditions ou interventions humanitaires, tant en Afghanistan à l'époque de l'invasion soviétique que dans les townships de Soweto, entre autres. Et de retour en France, c'est dans les soins palliatifs et l'accompagnement qu'il s'est investi, suivant l'exemple d'Elisabeth Kübler-Ross. Et il est actuellement, si je ne m'abuse, président de l'association Elisabeth Kübler-Ross France et responsable de l'unité de soins palliatifs du département de l'Indre. Pour information, et ceux qui ne connaîtraient pas Elisabeth Kübler-Ross, c'était une psychiatre, psychologue suisse et américaine à la fois, et qui était pionnière dans ce domaine des soins palliatifs. C'est elle qui a décrit notamment les cinq phases du mourir, qui sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Stades qui ne sont pas forcément suivis dans cet ordre, mais que deux sont néanmoins vécus par chaque individu en situation de perte, que ce soit d'un être cher, mais aussi d'une situation, d'une autonomie, de revenus, voilà. À la fin de cette intervention, il y aura peut-être le temps de quelques questions, si on a encore le temps. Et puis, nous terminerons notre petite soirée par une interpellation qui nous sera faite par Alliance Vita, la présence en la personne d'Étienne Gandry, qui est parmi nous, qui, en association avec la Fondation Jérôme Lejeune, vous expliquera la nécessité de se mobiliser auprès de nos eurodéputés, et ce, dans tous les pays de la communauté européenne, sur le financement des projets entraînant la destruction d'embryons humains. Je vous laisse la parole.
Merci. Je vais situer le contexte de mon champ de mission. Je ne vais pas y voir. Il n'y a pas de micro. Bon, donc je vais situer le contexte de mon champ de mission. Je suis aumônier au CHU de Grenoble, sur le site de l'hôpital Sud, qui comprend plusieurs lieux de soins et de rééducation, mais aussi un centre de gérontologie, où 125 résidents qui sont atteints de maladies neurodégénératives vivent la dernière étape de leur vie. Voilà, c'est en équipe d'aumônerie que nous accompagnons les patients, les familles, mais aussi les soignants. Beaucoup souhaitent aujourd'hui une mort qui survienne à l'improviste. Je tire ces quelques lignes du père Patrick Verspiren, qui est jésuite et qui travaille au département bioéthique du Centre Sèvres à Paris. Beaucoup souhaitent aujourd'hui une mort qui survienne à l'improviste. L'idéal serait d'ailleurs de ne pas avoir à vivre le temps du mourir, vivre sans avoir à penser à sa fin, puis un jour, mourir sans avoir à vivre dans la durée l'attente de ce moment. N'est-ce pas finalement évacuer totalement la mort de son existence? N'est-ce pas dénier la vulnérabilité humaine? N'est-ce pas éroder la confiance faite à autrui et le sens de la solidarité? Nous dit Patrick Verspiren. Je vais vous présenter deux situations. Atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 12 ans, Madame Discrète a été accueillie dans le long séjour pour y vivre les 6 dernières années de sa vie. Nous la visitons très régulièrement et les liens avec elle que l'on tisse sont forts. Son fils unique vient la voir presque quotidiennement. Puis, après des années, arrive la dernière étape de sa maladie. Madame Discrète ne peut plus se déplacer. Elle perd peu à peu le langage verbal. Elle ne déglutit plus. Les altérations définitives qui affectent progressivement son corps et son esprit se révèlent pour son fils de sérieux obstacles à la communication. Son fils me dira un jour « Je ne peux plus la voir comme cela. Je vais maintenant espacer mes rencontres. Ça m'est trop difficile. » Et puis un jour, tandis que je rends visite à Madame Discrète, arrive son fils que je n'avais plus rencontré depuis quelque temps. Un long silence s'installe. Le râle agonique de la patiente est éprouvant, ses yeux sont déjà fermés depuis quelques semaines. Son fils est debout dans la chambre et il tourne sans cesse autour du lit de sa maman. Je le sens très tendu et après un moment, je décide de rompre ce silence en m'adressant à lui. Aimeriez-vous évoquer un souvenir vécu avec votre maman? Et immédiatement, il s'adresse à sa mère. J'avais 5 ans, papa venait de nous quitter, et maman, tu m'avais pris sur tes genoux, et tu me consolais en chantant « Câlin, câlinette, câlin, câlinette ». Longtemps de silence, pour laisser cette comptine résonner en chacun de nous et au-delà, vivre dans la compassion avec eux leur histoire familiale. La vie humaine, toute vie humaine, porte en elle un mystère, une réalité non mesurable qui peut se révéler à ceux et celles qui consentent à la rencontre, qui consentent à voir au-delà des apparences immédiates, à voir au-delà de l'image. Il a suffi de voir sur le visage de Madame Discrète, presque inconsciente, ses larmes couler. Son fils les essuiera avec tendresse en lui donnant un câlin. Madame Discrète est morte 48 heures après. C'était la première fois en 6 années de visite que le fils de Madame Discrète évoquera son père, qui avait quitté le domicile familial quand son petit enfant avait 5 ans. La période du long mourir est souvent difficile à vivre pour ses proches, pour les proches des patients. Et pourtant, dans cette période, la présence offerte dans la fragilité, dans l'humilité, la parole donnée, échangée, recueillie, conduisent à donner du sens et de la valeur aux derniers jours de la vie du patient et à son entourage. Avons-nous toujours conscience de l'enjeu de ce temps? Madame Brune, âgée de 92 ans, atteinte d'une grave insuffisance respiratoire, arrive au centre de gérontologie Sud. Dès notre première rencontre, elle nous confie avec sobriété l'histoire familiale, en nous partageant d'emblée ce qui est difficile pour elle, le suicide de son fils lorsqu'il avait 27 ans. Je prends la mesure de cette épreuve qu'elle n'a sans doute pas encore traversée. Puis Madame Brune s'est peu à peu affaiblie, ne se nourrissant plus. Les complications respiratoires deviennent de plus en plus fréquentes. Pendant de longues heures par jour au chevet de sa maman, sa fille attend avec angoisse le dernier souffle de sa mère, qui fait déjà des pauses respiratoires. Nous nous sommes relayés en équipe chaque jour pour partager de longs moments auprès de toutes les deux. occasion d'évoquer des souvenirs heureux, des moments plus difficiles de la vie, mais aussi d'habiter le silence ensemble. Madame Brune devient épuisée et pourtant résiste encore et encore à mourir. 3 semaines s'écoulent, les forces de sa fille s'amenuisent aussi, et nous accompagnons, et l'une et l'autre, avec tendresse, disponible, impuissant, aimant. Et puis un jour, m'approchant du visage de Madame Brune, je lui dis avec affection, dans la confiance aussi, au début de votre arrivée dans ce lieu, il y a quelques mois, vous avez évoqué la mort de votre fils, Alexandre, qui s'est suicidé. Depuis, nous n'avons plus évoqué son nom. Et si on en parlait aujourd'hui ? Madame Brune dirige alors son regard vers sa fille dans un mouvement de grande lenteur, mais à la fois déterminé, esquissant un sourire, autorisant tout simplement à sa fille de parler d'Alexandre. Et la fille de Madame Brune évoquera longuement la vie de son frère et longuement l'incompréhension de son geste 35 ans plus tard. Madame Brune est très présente, attentive, verse des larmes. Jusque-là, elle avait un visage marqué, très tendu, à la hauteur de sa résistance contre la mort. Nous avons peu à peu vu les traits de son visage se détendre. Sa respiration est devenue aussi plus paisible. Quelques jours plus tard, Madame Brune, alors qu'elle était seule, a rendu son dernier souffle. Ces deux récits témoignent à la fois de la mort qui vient, de la mort qu'on laisse venir, mais peut-être surtout de ce travail d'habiter le temps du mourir. Ce travail de poursuivre sa tâche humaine, non pas seul bien sûr, mais avec ceux qui aident et entourent le malade, la famille, les proches, les soignants. Et dans une démarche d'avancer ensemble. Travail de dessaisissement, travail d'ajustement, travail d'adaptation à la perte, à la nouveauté qui s'impose face à cette mort qui va venir, mais qui n'est pas là. Le temps du mourir est un véritable travail humain. C'est un temps de vie à vivre. Et nous dit Thierry Collot, qui est médecin théologien, un temps de vie à vivre dans un processus de circulation du donner et du recevoir qui est au cœur de toute humanité. Dans cet espace du long mourir, il s'agit d'accueillir l'inattendu, la gratuité, la surprise, c'est-à-dire cette part de non maîtrisable dans toute histoire humaine. Consentir à être là, à ce moment-là, avec ceux qui partagent notre vie dans ces instants de fragilité, de dénuement. N'est-ce pas tout simplement être humain ensemble ? L'accompagnement de la personne dans ce travail du mourir n'est pas l'affaire de spécialistes, de médecins, des équipes soignantes, de bénévoles Jalmar, d'équipes d'aumônerie ou d'autres associations. Ce temps de l'accompagnement qui nécessite du temps, des compétences, de l'écoute et de la bienveillance, de la bonté et de la tendresse toujours. Ce temps d'accompagnement appartient à tous, famille, proches, soignants. Tous nous sommes membres de notre humanité commune et solidaire. En sommes-nous toujours conscients ? Voilà, je vous propose pour terminer de laisser cheminer en nous cette réflexion en écoutant Marie-Jo Thiel, qui est médecin, théologien. Marie-Jo est directrice du Centre interdisciplinaire d'éthique à Strasbourg. Et elle évoque ce temps du long mourir. À quel moment précis le jour se lève-t-il ? Quand peut-on dire qu'il fait clair ? Quand peut-on dire que la nuit est tombée, que le jour s'est éteint ? En vérité, il ne s'agit pas d'un instant. L'aube pointe dans le clair-obscur comme une immense lumière sortant de l'obscurité et des ténèbres. L'être nouveau, le petit homme, surgit du clair-obscur de l'indéterminé comme un individu prenant peu à peu forme humaine. L'être mourant passe par le clair-obscur du processus de mort, le temps que celle-ci fasse son travail d'anéantissement d'un corps, le temps que l'âme, diront les croyants, quitte le corps pour rejoindre son Créateur. Et nous dit Marie-Jo Thiel, offrons-nous l'espace du mourir, offrons-nous l'espace de l'engendrement et du naître à nouveau. Merci.
Bonsoir. Je ne pourrais pas être là, mais je suis là. Je ne suis pas un homme de lumière. Je ne suis que le porte-voix de ce qu'a vécu Christine, le porte-voix du mystère que Dieu a entretenu en elle, malgré elle. Durant sa maladie, un jour, Christine s'est élevée avec dureté contre l'euthanasie. Elle avait eu subitement peur de l'attitude d'un médecin. La maladie avait récidivé et en même temps, elle étudiait le livre de Job. Je n'avais rien dit, mais mon regard l'avait rassurée. Ce jour-là, une petite voix intérieure m'avait fait comprendre qu'il fallait parler, témoigner de la beauté de la vie, de la beauté de la fin de vie, de l'amour de Dieu pour chacun de nous. La première fois, ce fut pour les états généraux organisés par le professeur Sicard, chargé par le président de la République de rédiger un rapport sur la fin de vie en vue de l'élaboration d'une nouvelle loi. Je n'ai eu connaissance de cette manifestation que quelques heures avant. Je n'avais rien préparé et je ne m'étais pas préparé. Ce fut un choc terrible. Il n'y avait que des tenants de l'euthanasie. La violence était là, les mots étaient durs, les visages déformés par des rictus de souffrance. Lorsque j'ai entendu une femme dire « La maladie est horrible » et que si elle avait pu jeter son compagnon par la fenêtre du 9e étage de l'hôpital, elle l'aurait fait. Instinctivement, j'ai levé la main, confié mes lèvres à l'Esprit Saint. La parole me fut donnée immédiatement et j'ai pu, nous avons pu avec Christine, dans le calme, témoigner de ce qu'elle avait vécu et de ce que sa famille avait vécu. J'ai été écouté et mes propos ont été repris dans la presse nationale et dans le préambule du rapport Sicard. Mon témoignage est le seul présent dans la République. Il nous faut donc être présents. Il ne faut pas être silencieux. Il faut témoigner pour nous. Plaçons la vie au centre de tout. Mais aussi et surtout pour ceux qui croient que l'euthanasie est le remède absolu. On veut faire croire que se donner la mort aux siens, c'est la liberté. C'est tout contraire. Ce n'est que l'aliénation de la liberté. La liberté, c'est l'abandon. C'est l'acte ultime d'amour. Christine, mon épouse, celle que Dieu m'avait confiée, venait d'avoir 5 ans. Nous réfléchissions à comment orienter notre vie, à passer plus de temps ensemble. Et subitement, en effet, la maladie s'est invitée dans nos vies. Le résultat de l'IRM est implacable. Deux tumeurs ont fait leur nid dans son cerveau. Nous nous taisons. Il n'y a rien à dire. Les clichés sont édifiants ainsi que le visage de la radiologue. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Saint-Esprit nous a donné ce verset de l'évangile de Saint Matthieu au moment même où la maladie de Christine s'offrait à nous. C'était le premier caillou laissé par l'Esprit Saint sur le chemin de croix qu'allait emprunter Christine. Le Père Louis-Marie, le frère Saint-Jean, saura par ses rencontres, par ses enseignements, rendre lumineux ce chemin qui de croix se transformera en grâce. Après une première hospitalisation et des doses massives de cortisone, Christine retrouvera la parole. Ce sera pour me dire « Le Christ m'a guéri ». Elle expliquera au médecin incrédule « Non, vous ne me ferez rien. Je me suis rendu à la messe, j'ai communié, reçu le sacrement des malades, essuyé une profonde décharge électrique dans la poitrine, débuté avec mon époux une neuvaine à la divine miséricorde. Je n'avais pas compris. Nous ne parlions pas de la même chose. Le Christ l'avait bien guéri, mais il fallut se rendre très vite à l'avis des médecins. Si nous n'agissions pas rapidement, Christine ne survivrait pas plus de 2 mois. Christine resta à l'hôpital et fut opérée le lendemain. Il y eut 11 opérations supplémentaires, des complications très sévères, des traitements très lourds. Christine ne comprit qu'à la fin de sa première cure de chimiothérapie qu'elle l'avait débutée. Elle resta hospitalisée 562 jours. Après sa seconde opération au cerveau et avant que les médicaments ne lui brisent les os, l'Esprit Saint dicta en son cœur les premiers versets de l'Évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Au premier instant, elle ne comprit pas la résonance de la parole de Dieu. Elle prit conscience de son importance assez vite, et ses mots furent gravés en lettres d'or dans son cœur. Jamais nous n'avions côtoyé la maladie, les difficultés. Nous étions bénis de Dieu. En un instant, tout bascule. Au raisonnement d'un mot bref et d'un silence lourd. Tout bascule. La maladie transforme les êtres. Elle transforme les malades en premier, physiquement bien sûr, mais intérieurement en les rendant perméables à l'action de Dieu. Elle permet aussi des rencontres merveilleuses avec des inconnus qui deviennent proches, avec des frères et sœurs dont la richesse intérieure m'enchante encore, avec des initiateurs de chaînes de prière dont nous ne connaissions pas l'existence, avec des personnels soignants dont l'amour ruisselle sur leur visage. Des saints sont au milieu de nous et nous ne voulons pas les voir. Plus surprenant sont des réactions de chrétiens engagés qui théorisent, qui savent et dont les conseils sont redoutables. Tu n'en fais pas assez. Nous ne comprenons pas pourquoi tu ne demandes pas la guérison de Christine. « Demandez et vous recevrez. Prie-tu. Prie-tu. » La maladie fait peur. Elle peut être le reflet de nos propres angoisses et j'ai vu des visages se détourner de nous. Alors oui, la maladie est contagieuse, mais elle est contagieuse d'amour. Il ne faut pas en avoir peur. Elle nous grandit. J'ai vu les regards se perdre au-dessus du fauteuil roulant. Des regards qui ne voulaient pas voir. La maladie dérange, et pourtant si ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants, ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. Christine ne remarquait rien. Le dimanche, elle donnait toutes ses forces pour se rendre à la messe. Elle quittait l'église épuisée et consacrait le reste de la journée à récupérer. Durant la maladie, jamais nous n'avons partagé d'aussi vrais et bons moments dans toute notre vie. En m'occupant de l'épouse que le Seigneur m'avait confiée, J'ai vécu les plus beaux moments de ma vie d'homme. Christine m'a laissé avec amour, la laver, la soigner, l'habiller, alors qu'elle n'avait plus aucune mobilité. J'ai compris ce qu'était l'amour, la joie que nous offre celle que l'on aime, de s'en occuper et de la chérir. Christine ne vivait pas dans le drame, alors qu'elle vivait un drame humainement parlant. Elle avait remis sa famille entre les mains de Dieu. S'abandonner, c'est aussi abandonner ce que l'on ne comprend pas, abandonner ce qui est douloureux. Durant ces deux années, jamais nous n'avons évoqué le futur. Nous sommes toujours restés dans le présent. Nous ne nous sommes jamais souciés du lendemain. Pas un seul instant, Christine ne m'a donné un seul conseil, ne serait-ce que pour l'éducation de notre seule fille. Elle s'en remettait à l'amour de Jésus pour sa famille. Elle comprenait la communion des saints. Elle savait que Jésus l'enverrait auprès de nous autant de fois que dans sa providence il le souhaitera. Le Père Louis-Marie, après les obsèques, me dira « Aujourd'hui, j'ai une grande sœur. Nous savons que Christine sera pour chacun de nous plus qu'un ange gardien. » La lecture de la parole de Dieu, les enseignements du Père Louis-Marie, éclaire au fur et à mesure le destin de son âme. Bien évidemment, Christine connaissait la gravité et les conséquences de la maladie. Elle chérissait ses enfants, qui avaient tous encore besoin d'elle. Elle ne voulait pas mourir. Elle voulait conserver sa place, aider ses enfants à prendre leur envol. Pour vivre ce qu'elle a vécu, il fallait bien le vivre dans une autre dimension que celle de notre humanité. Dans son homélie, le Père Louis-Marie dira « Dès la première rencontre, j'ai compris que son état était différent. Nous n'étions plus sur terre. Elle avait rencontré Dieu. Son âme avait rencontré Dieu. Elle ne vivait plus comme nous. » En remettant tout entre les mains du Père, l'Esprit Saint lui avait été donné pour nous consoler et nous réconforter. Christine avait reçu la paix. Dieu ne répond jamais au mal par le mal, il répond par un plus grand amour, le don de l'Esprit Saint. Il se sert du mal pour nous aimer davantage. L'ensemble de la famille, nos cinq enfants, se sont efforcés de grandir dans la dignité. Je suis totalement convaincu qu'ils n'ont pu le réaliser que soutenus, entraînés par l'Esprit Saint, aimantés par leur mère. Comment aurions-nous pu rester debout face à une telle adversité? Devant l'aggravation de l'état de santé de Christine, le Père Jean-Baptiste me proposa de dire la messe des mourants au pied du lit de Christine. Nous étions quelques-uns, unis à jamais dans la beauté et l'intensité de la liturgie avec Christine. Sa main paralysée cramponnait sa médaille de la Vierge Marie. J'ai organisé le rapatriement des enfants. Et à leur retour, Christine s'est redressée, a pu prononcer quelques mots, leur a souri. Une maman tout à la joie de retrouver ses petits. Dans le mano à mano qu'elle menait avec la Sainte Vierge, celle-ci lui avait donné du temps pour nous l'offrir. Les enfants ont appris à entamer un dialogue avec une maman qui ne pouvait plus prononcer de paroles, qui ne pouvait plus bouger que ses cils. Ceux-ci bougeaient à une vitesse folle, tellement elle avait encore de choses à nous dire. Les enfants ont appris que l'on pouvait se parler autrement. Une maman aux premiers instants de la vie nourrit ses enfants de son lait maternel. Aux derniers instants, il en était de même. Christine savait qu'elle continuerait à nous guider. Chaque jour, je demande pardon à Christine. Pardon. Fin juin, j'avais remarqué que son état s'altérait. Ayant une IRM le 10 juillet, j'ai demandé à un médecin qui la suivait d'avancer la date de l'examen. Sa réponse fut sèche. Je n'ai pas de critères objectifs. Je lui répondis que les critères objectifs étaient sous ses yeux. Sa mâchoire se crispa. J'ai compris qu'il n'en démordrait pas. Par lâcheté, je n'ai pas insisté. Le 10 juillet, on m'annonça que le traitement n'était plus efficace. Le 13, l'oncologue me dit que nous commencerions un nouveau traitement dans 2 ou 3 jours. Le lendemain, Christine était transférée en unité de soins palliatifs, avant de rejoindre Jésus 3 semaines plus tard. Pardon. Nous avons passé la dernière heure, Christine, en récitant le chapelet avec 3 des enfants et une infirmière qui ne connaissait pas le « Je vous salue Marie ». Christine évangélisait sur son lit jusqu'à son dernier soupir, puisque cette jeune femme pleine de compassion finit par se joindre à nous dans la prière. Oui, Christine évangélisait dans le silence. Le frère Louis-Marie dira « C'est dans le silence que les choses les plus grandes se disent ». J'aimerais vous donner ce témoignage, ou plutôt vous l'offrir dans le sens de l'offrande fraternelle, de l'exercice de la charité fraternelle. Début novembre, je n'allais pas bien. Mon cœur saignait abondamment. La marche n'était que mécanique. La force de l'habitude guidait mon quotidien. Tous les vendredis à midi, je me rends avec un groupe de frères en Jésus adorer notre Seigneur en sa cathédrale. Ma présence est pauvre, lasse, fatiguée. Mais je viens et pose ma tête contre le cœur de Jésus en silence et en déposant mon âme entre ses mains. Je n'ai que mon cœur là à offrir. Je n'ai plus la force de demander. Je ne gouverne rien et m'abandonne en Jésus. Le vendredi suivant, dès le début de mon inclinaison devant lui, clac, tel un rideau, Christine est devant moi, resplendissante. Je savais au plus profond de moi qu'elle était présente au milieu de la cour céleste pendant chaque messe. Je suis enivré de bonheur, mais calme. Nous nous retrouvons comme si nous venions de nous quitter un instant auparavant. Alors que je viens rencontrer notre Seigneur et m'offrir à lui, il s'efface et m'offre celle que j'aime pour me consoler. C'est cela la bonté infinie de Dieu et l'amour qu'il a pour chacun de nous. Nous sommes restés unis tous les deux, dans le silence et la paix, comme deux jeunes amoureux épris l'un de l'autre dans un cœur à cœur fusionnel. Dieu n'est qu'amour.
Merci, monsieur. Il est bien difficile de parler après votre témoignage. Et donc ma parole ne sera pas une parole par-dessus la vôtre, mais à côté de la vôtre. Et tout comme elle sera à côté de celle de Marie-Pierre aussi, dans son rôle d'accompagnant pastoral. Je pense aussi que vous, dans la salle, à entendre dans le silence les émotions que vous ressentez, avez besoin aussi, peut-être, de respirer un peu et de laisser encore rebondir les paroles qui viennent de nous être livrées et qui témoignent de ce qui peut se vivre dans le temps du mourir. Cependant, en ce qui me concerne, je n'aborderai pas cet aspect-là de l'accompagnement, bien que ça soit mon quotidien depuis 25 ans. Parce que la demande qui m'a été faite, c'est de parler de l'euthanasie. Alors je vais en parler d'une position que je vais donc vous détailler, après vous avoir remercié, Madame Haber et Dr Putinier, de m'avoir permis de revenir sur mes terres natales, ce qui est aussi pour moi objet d'émotion. Je vais en parler parce qu'effectivement, après avoir débuté ma carrière de médecin par de l'obstétrique et avoir mis au monde des enfants, je me suis orienté par le hasard de la vie, si tant est qu'on pense que le hasard existe, vers une pratique d'accompagnement de fin de vie, d'abord en tant que bénévole, puis en tant que médecin, 12 ans dans une unité de soins palliatifs à Villejuif, dans la première unité de soins palliatifs de l'assistance publique hôpitaux de Paris. mettant en place également un des premiers diplômes universitaires de soins palliatifs après celui de Grenoble. Et puis ensuite également créant un premier cabinet de soins palliatifs à domicile, libéral. Et puis, ayant une famille qui s'agrandissait et écoutant les patients qui me disaient que dans la vie, il faut s'attacher à l'essentiel, et un peu en difficulté avec ma grande tribu, pour offrir à celle-ci une qualité de vie suffisante dans les appartements exigus parisiens, j'ai fait le choix de quitter le prestige du CHU pour rejoindre une humble équipe dans le Berry, où finalement les êtres humains sont bien les mêmes, pour investir une équipe mobile dans l'objet et d'accompagner, d'aider ceux qui accompagnent les malades à les accompagner jusqu'au bout dans tout le département et quel que soit leur lieu de décès, c'est-à-dire aussi bien à l'hôpital qu'en maison de retraite ou à domicile. Au cours de ces 25 ans d'expérience, j'ai été effectivement, comme l'a dit Jean-Baptiste, extrêmement influencé par une des grandes pionnières des soins palliatifs qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, dont j'ai été l'élève aux États-Unis et dont j'ai rejoint l'équipe et qui m'a appris que la fin de vie, c'était un processus, c'était un chemin, c'était un continuum dont il était bien difficile de fixer les limites, tout comme la naissance est un continuum. Et c'est vrai que je vois pour ma part beaucoup de parallèles entre la question de la naissance et la question de la mort. Et je voudrais vous redire que, à mon sens, le contraire de la mort, ce n'est pas la vie, c'est la naissance. La naissance et les morts, et la mort sont les deux bornes de la vie et elles font partie de la vie. Et de même qu'il est bien difficile de savoir quand est-ce qu'on est, est-ce que c'est lorsque la première mèche de cheveux est sortie, est-ce que c'est quand c'est la tête, est-ce que c'est quand c'est les épaules, il me semble qu'il est bien difficile de savoir également quand meurt-on vraiment. De même qu'il est bien difficile de savoir ce qui pousse un enfant à naître, si c'est juste sa maturité physiologique, si c'est le relâchement de l'utérus de sa mère, si c'est sa volonté propre de naître, il est bien difficile de savoir ce qui pousse un homme à mourir. Est-ce l'épuisement et la logique de la maladie qui l'affecte, ou est-ce que c'est également un relâchement de tout son être? Toutes ces questions font mystère. Et pour moi, un mystère, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas accessible, c'est quelque chose qui n'a de cesse d'être interrogé. Et puis enfin, je dirais que bien sûr, les questions se posent, et c'est le sujet de mon intervention, autour de savoir, c'est est-ce qu'on peut intervenir sur le déroulement de ce processus du mourir, tout comme finalement nous nous sommes déjà autorisés à intervenir sur le processus de la naissance. J'évoquerai bien sûr l'interruption de grossesse, mais j'invoquerai aussi les déclenchements. Voilà. Nous sommes autorisés à intervenir sur le processus de la naissance, et logiquement, aujourd'hui, nous nous interrogeons sur l'opportunité à intervenir sur le processus du mourir. Donc c'est de ça dont je vais parler. Encore une fois, je suis bien heureux que vous ayez pu intervenir avant moi, parce que mon sujet va être un peu plus sec, au sens où il va être technique. L'objectif étant de vous faire rentrer, non pas dans un débat peut-être, quoique, sur la question de l'euthanasie, parce que nous sommes entre chrétiens et nous savons bien le prix de la vie de l'homme. Et il ne s'agit pas ici de le discuter, mais plutôt de rentrer dans la question de « et soit, s'il fallait discuter d'une loi, en quels termes elle se discuterait » C'est-à-dire être non pas dans de l'abstraction, dans de l'opposition frontale entre des citoyens qui ont des représentations différentes, des chemins de foi différents, des expériences de vie et de mort différents. Malheureusement, tout le monde n'a pas habité la fin de vie de ses proches de la même façon que monsieur. Et donc, comme nous faisons société et qu'il faut bien maintenir cette cohérence, il est important de s'interroger dans le fond sur ce sujet, en mesurant bien ce qui est en jeu et ce que je vais essayer de faire ce soir dans un délai impossible. Et donc, voilà, j'accepterai d'être interrompu à tout moment par maître du temps, puisqu'il le faut bien. Alors, ce sujet, vous le savez, est un sujet d'actualité, puisque il y a eu bien sûr toute une série de textes de loi donc, sur lesquels je reviendrai assez rapidement, mais il y a eu bien sûr le rapport fait par Jean Leonetti, auteur d'une loi dont je détaillerai le contenu. Puis il y a eu ensuite un rapport de l'Office national sur la fin de vie, de l'Observatoire national de la fin de vie en 2011 et en 2012, un rapport du comité de suivi du plan quadriennal de soins palliatifs, un rapport de l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales sur les soins palliatifs à l'hôpital. Il y a eu également le rapport de Dr Didier Sicard qui a été remis au président Hollande le 18 décembre 2012. Et puis il y a eu une saisine du CCNE, du Comité National Consultatif pour les Sciences de la Vie et de la Santé, lequel devrait se prononcer à partir du mois d'avril et remettre un avis avant le mois de juin, en sachant qu'il avait déjà remis un premier avis, qui est l'avis numéro 63, pour ceux qui veulent le lire, et qui était paru en janvier 2000, le 27 janvier 2000, et qui évoquait l'exception d'euthanasie. Et nous attendons un projet de loi, concrètement, en fidélité avec la promesse de campagne du président François Hollande, un projet de loi qui sera déposé en juin 2013 à l'Assemblée nationale, en sachant déjà que, en réaction à ces différents événements, il y a eu une déclaration assez intempestive du Conseil national de l'Ordre des médecins en février 2013, que j'évoquerai. Et puis le député Jean Leonetti vient de déposer là, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi dont je parlerai également du contenu. Donc vous voyez, les rapports, les propositions, les lois s'enchaînent et il est utile de constater que nous arrivons véritablement aujourd'hui à un moment de crispation. Il va bien falloir que des décisions se prennent. Alors, quelques chiffres dans un premier temps. Nous avons dans notre pays environ 530 000 décès par an. Sur ces 530 000 décès, il y a environ 320 000 personnes qui requièrent des soins palliatifs. Et sur ces 320 000 personnes, on s'aperçoit qu'il y en a à peu près 78 000 qui, décédant à l'hôpital, ont bénéficié d'une prise en charge de soins palliatifs. Donc, c'est vous dire combien actuellement toutes les personnes qui pourraient bénéficier des soins palliatifs n'en bénéficient pas. En sachant par ailleurs qu'il y a 58% de Français qui décèdent à l'hôpital et 26,5% des Français qui décèdent à domicile, en sachant qu'on enregistre une variabilité de ces taux suivant les lieux de décès. Et il semblerait que dans le sud de la France, on meurt davantage à domicile par rapport au nord. Pour répondre aux besoins de soins palliatifs de ces patients, il existe en France environ 110 unités de soins palliatifs avec lit d'hospitalisation qui peuvent s'apparenter à des unités de soins intensifs en soins palliatifs. Il existe 5000 lits identifiés de soins palliatifs. Ce sont des lits dans des établissements normaux, dans des services normaux où il existe cependant une forte mortalité et où le service s'est mobilisé pour offrir un accueil spécifique pour ces patients, avec du personnel formé, des familles accueillies, des pratiques pluridisciplinaires favorisant les échanges, et les collaborations avec éventuellement des équipes de soins palliatifs dites mobiles, dont il existe environ 360 exemplaires en France environ. Les chiffres changent aujourd'hui tous les jours. Pour essayer de poser la question de l'euthanasie, dans un premier temps, je voudrais vous en proposez une définition qui est celle du CCNE, du Comité National d'Éthique, dans son avis déjà du 27 janvier 2000, qui disait « L'euthanasie, c'est, et tous les mots sont importants, c'est l'acte d'un tiers mettant délibérément fin à la vie d'une personne dans l'intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable. » Je reprends les mots. L'acte d'un tiers, ça veut dire qu'il faut une personne extérieure qui va délibérément, et ça renvoie à la délibération, mettre fin à la vie d'une personne, je dis bien d'une personne, il ne s'agit pas de faire cesser une maladie, mais de mettre fin à la vie d'une personne, dans l'intention, et vous observez d'emblée qu'on est dans la question de l'intentionnalité, dans l'intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable, pourquoi, jugée par qui, pourquoi. Voilà ce qu'est aujourd'hui l'euthanasie, comment on la définit, et toujours pour rester dans des choses très objectives, puisque c'est en ces termes que se discutent aujourd'hui les choses, une étude a été faite récemment, conjointement par l'Observatoire national de la fin de vie et par l'Institut national des études démographiques, l'INED, qui est parue en novembre 2012, donc elle est assez récente, qui a travaillé sur un échelon représentatif de 5000 personnes décédées, aussi bien à l'hôpital qu'à domicile ou en maison de retraite, et qui a montré que ces patients, 1,8% seulement avaient fait une demande d'euthanasie explicite. Sur ces 5000 décès, 3% environ, 3,1% de décès faisaient suite à une décision d'hâter la mort, 0,6% à la demande du patient. Et dans 0,2% des cas seulement, il avait été procédé à une injection de substances létales pour ces malades. Voilà, ce qui veut dire qu'en réalité, tout le débat de l'euthanasie se joue aujourd'hui sur ces 0,2%-là, qui constituent donc, dans notre pays, sur les 530 000 décès, que quelques centaines, tout au plus, quelques milliers de situations. Quand je dis plusieurs milliers, je ne suis même pas certain qu'il y ait plusieurs milliers de situations. Alors, essayons de voir aujourd'hui, dans notre pays, ce sur quoi les médecins peuvent s'appuyer dans le cadre de la législation actuelle pour accompagner la fin de la vie, sans pour autant répondre à une demande d'euthanasie dont vous savez qu'elle est aujourd'hui toujours interdite et considérée comme un assassinat. Alors là aussi, ça me paraît important de repréciser les termes. Un homicide, c'est un homme qui tue un autre homme. Un meurtre, c'est un homicide volontaire sans préméditation. Un assassinat, c'est un homicide volontaire avec préméditation. Donc une injection létale pour faire mourir un patient dans l'intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable et délibérément, c'est aujourd'hui un qualificatif d'assassinat. Alors quels sont aujourd'hui les moyens dont les médecins disposent pour accompagner ces situations de fin de vie? Notre pays est le pays au monde qui dispose du plus de textes pour encadrer la pratique médicale autour de la fin de la vie. Et nous avons été le premier pays à nous doter, le 26 août 1986, d'une circulaire ministérielle qui définissait ce qu'était les soins palliatifs et comment on devait accompagner les malades et les organiser, cette circulaire dite la circulaire Larocque, du nom de son auteur, qui était un inspecteur de l'IGAS, Geneviève Larocque. Alors que je me souviens, au tout début, lorsque je démarrais les soins palliatifs, nous étions dans une pratique novatrice où en particulier la découverte ou la redécouverte de l'usage de la morphine était encore loin d'être répandue et acceptée par tous. Lorsqu'on voulait accompagner les patients en les soulageant, nous étions souvent marginalisés, pris pour des originaux ou des gens qui abandonnaient les patients. Et en réalité, il y a une loi qui a déjà changé beaucoup de choses dans votre pays, c'est la loi du 9 juin 1999, qui vise à garantir l'accès aux soins palliatifs à tout patient dont l'état de santé le requiert. Cette loi a été votée à l'unanimité au Parlement, il y en a si peu qui le sont, que cela vaut le mérite d'être signalé. D'emblée, cette loi plaçait les soins palliatifs dans le champ de la légalité et du droit pour les patients. C'est une loi d'intention, force est de constater que les moyens n'ont jamais été donnés et qu'ils ne le sont toujours pas pour permettre à tous les patients dont l'état de santé le requiert de vraiment pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Il y a une autre loi qui a également été très importante, c'est la loi du 4 mars 2002, dite loi de démocratie sanitaire ou loi Kouchner, une grosse loi de 60 pages environ, qui revenait sur la possibilité pour les patients de refuser les soins, sur leur droit à être soulagés, sur leur capacité à pouvoir recevoir des soins palliatifs, et qui instaurait déjà un premier élément qui me semble important, qui est un élément de représentation lorsque l'on n'est plus en mesure de pouvoir exprimer sa volonté. C'était le mécanisme de la personne de confiance. Vous savez qu'aujourd'hui, tout citoyen a la possibilité de désigner une personne de confiance qui peut être un médecin, mais aussi son mari, un ami, sa femme, un enfant ou un inconnu, après tout, et qui pourra participer aux entretiens médicaux et qui pourra aussi, qui devra être interrogé par les médecins si le patient n'est plus en mesure de pouvoir s'exprimer pour faire part de sa volonté lorsque des décisions importantes sont à prendre. Voilà. Cette personne de confiance est interrogée, mais les médecins se doivent de l'interroger, mais en revanche, ils ne sont pas contraints par l'avis de cette personne. Ils demeurent maîtres de leur art. Une autre loi est apparue à la suite de l'affaire Vincent Humbert, qui est à la suite de cette commission d'enquête parlementaire menée par le député, qui est un cardiologue d'Antibes, Jean Leonetti, un député UMP, après toute une série d'auditions très riches à l'Assemblée. La loi Leonetti est venue, donc, le 22 juin 2005, essayer d'apporter encore une possibilité pour les patients de davantage se faire entendre auprès d'un corps médical réputé parfois un peu dur d'oreille et n'associant pas toujours le patient aux décisions. Cette loi du 22 avril 2005 répétait la rappelait la possibilité qu'ont les malades de s'opposer aux soins. Deuxièmement, elle rappelait toujours le mécanisme de la personne de confiance, et elle aussi instaurait un autre dispositif qui est celui des directives anticipées. Sous-entendu que toute personne, tout citoyen, peut là aussi encore rédiger des directives sur lequel il peut dire ce qu'il souhaite ou ne souhaite pas pour sa fin de vie, au cas où il ne serait plus en mesure de pouvoir le dire par lui-même. Par exemple, pour des patients pouvant être soumis à un étouffement, est-ce qu'ils souhaitent ou pas être trachéostomisés, ventilés et mis sous machine? Pour des personnes n'étant plus en capacité de déglutir, est-ce qu'ils souhaitent ou non bénéficier de la pose d'une sonde de gastrostomie ou de jéjunostomie, soit un tuyau passant à travers la paroi de l'abdomen pour apporter des flacons d'alimentation. Voilà, ce sont des exemples, mais je pourrais en citer d'autres. Ces directives anticipées, elles sont prioritaires par rapport à tout autre avis. Les médecins, dans les situations où les patients ne seraient plus en mesure d'exprimer leur volonté, se doivent de rechercher l'existence de ces directives. Et elles doivent en tenir compte, bien sûr, même si, là encore, il est écrit dans la loi que les médecins restent maîtres de leur art. Ensuite, ils doivent rechercher l'existence d'une personne de confiance et, le cas échéant, l'interroger. Et enfin, s'il n'existe ni directive anticipée ni personne de confiance, ils doivent questionner, interroger l'entourage, et ce qu'on appelle les ayants droit. Ces directives anticipées sont valables 3 ans, elles sont révocables à tout moment. Elles sont à conserver, à diffuser auprès de son médecin traitant ou des médecins qui vous suivent. dans le cas où vous seriez atteint d'une pathologie qui pourrait effectivement vous mettre en péril. Il existe, cette loi a également instauré un autre dispositif, je passe un peu vite, on pourra y revenir si vous voulez plus de détails, un autre dispositif qui est un dispositif important, qui est celui de la limitation de traitement. Vous savez qu'autrefois, nous étions toujours, nous médecins, soumis à la nécessité de ne... Voilà, nous étions toujours sous le coup de la non-mise en situation de danger, non-assistance à personne en danger. Donc nous devions, coûte que coûte, soutenir le mouvement de la vie à n'importe quel prix. On a pu voir, dans certaines circonstances, que ce prix payé par les patients pour rester vivant était, ma foi, bien lourd, surtout dans les situations de pathologie, quoi qu'il en soit, les amenant à un décès. Et bien évidemment, on a vu apparaître ce mot d'acharnement thérapeutique, dans un certain nombre de situations. Effectivement, on avait le sentiment que les soins étaient disproportionnés et qu'ils apportaient plus d'inconfort que de qualité de vie pour un patient qui, quoi qu'il en soit, allait mourir. Les sociologues ont d'ailleurs montré que plus la médecine a gagné en capacité de guérir, plus elle est devenue puissante, développant notamment à travers les techniques d'anesthésie et de réanimation permettant nos contemporains de vivre de plus en plus longtemps, plus effectivement certains patients payaient le prix nécessaire à cela, qui était enfin, jugé nécessaire à l'époque à cela, qui est ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique, et plus le mouvement pro-euthanasie prenait naissance et se développait. Il y a vraiment une relation de cause à effet entre la violence de la médecine, aurais-je envie de dire, et la montée du mouvement pro-euthanasie. Donc nous, corps médical, portons une part de responsabilité dans la montée de ce mouvement. Et on a vu apparaître des mots, d'ailleurs, qui sont ceux de médecine douce, comme si la médecine pouvait être dure. Or, il semble que parfois, elle soit effectivement très dure. Aujourd'hui, on ne parle plus d'acharnement thérapeutique, parce que ce mot est très subjectif. L'acharnement, pour certains, n'est pas du tout l'acharnement pour d'autres. Nous avons des patients qui nous demandent, coûte que coûte, de réaliser des soins, et d'autres qui réagissent très vivement, citons qu'on présente une aiguille, ne serait-ce que par le biais d'une seule injection. Donc ce mot est trop subjectif. On parle aujourd'hui d'obstination déraisonnable ou de soins disproportionnés. La loi Leonetti remet en cause, requestionne la proportionnalité des soins et autorise aujourd'hui les médecins, par cette loi, légalement les protège, autorise à interrompre des traitements lorsqu'ils ne sont plus jugés raisonnables, ou du moins lorsque les bénéfices attendus sont inférieurs aux inconforts qu'ils provoquent. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de limiter les soins, d'arrêter les soins lorsqu'ils ne sont plus jugés nécessaires. Ainsi, les réanimateurs, lors des situations dramatiques de réanimation dont ils savent pertinemment que le patient ne récupérera plus, ont la possibilité de débrancher le respirateur. De même, nous avons possibilité, lorsque, par exemple, une personne âgée qui n'est plus en mesure de déglutir fait bronchite sur bronchite parce qu'elle avale sa nourriture et que ses aliments s'accumulent dans les bronches et se surinfectent. Nous traitons généralement ça par des antibiotiques, mais au bout d'un certain temps, nous savons bien que nous ne pourrons pas continuer la vie durant à traiter ça et qu'il va bien falloir laisser le patient un jour décéder d'une complication de sa maladie, nous pouvons être amenés parfois à ne plus prescrire des antibiotiques, et ceci maintenant est légal. Donc cette limitation de soins est autorisée. En tous les cas, elle intéresse l'ensemble des soins du patient, y compris l'alimentation et l'hydratation, lorsqu'ils sont artificiels. Et dans tous les cas, cette limitation de soins impose que l'on poursuive, quoi qu'il en soit, des soins palliatifs visant à soulager les patients et à maintenir le plus longtemps possible le confort de ces malades. Et cette limitation de soins impose qu'elle se fasse non pas dans une décision solitaire, comme ça se voyait trop souvent auparavant, mais selon une procédure collégiale intéressant l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale, et avec l'aide d'un second médecin sans lien hiérarchique. Décision de limitation de traitement est prise après une discussion argumentée tracé dans le dossier, et où la famille ou les ayants droit ont été interrogés, où on s'est bien sûr questionné sur les licences préalables de directives anticipées, et ensuite la famille en est informée. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'aller jusqu'à ne plus maintenir un certain nombre de traitements, y compris les traitements qui peuvent maintenir la vie, que sont l'hydratation et l'alimentation. Il est même possible, et c'est également un des apports de cette loi Leonetti, la loi Leonetti nous dit que nous devons tout faire pour soulager le patient. Et lorsque nous sommes confrontés à des situations de symptômes dits réfractaires, c'est-à-dire que nous ne parvenons pas à les soulager, la loi nous permet de mettre en place des traitements qui peuvent aller jusqu'à mettre en danger la vie de la personne, même si ce n'est pas ça qui est recherché au départ, en autorisant ce qu'on appelle le double effet des médicaments. Vous savez que parfois nous utilisons des médicaments et dans un objectif déterminé et que nous observons parfois des effets secondaires que nous n'attendons pas, que nous ne souhaitons pas, mais qui sont là et qui sont malheureusement un peu le corollaire de l'utilisation de ces traitements. Voilà, c'est ce qu'on appelait la règle du double effet. Et la loi Leonetti nous précise que nous pouvons aller jusqu'à utiliser certains médicaments, y compris si au risque de mettre en danger la vie du patient, si c'est bien sûr pas ça l'intention initiale. C'est ça la limite. Ça me paraît important de vous expliquer ceci, parce que vous voyez combien tout est très subtil en réalité dans ce travail d'accompagnement et de soulagement du patient. Et alors que aujourd'hui, on observe souvent dans les débats des raccourcis de pensée, des raccourcis de situation, qui empêchent à penser ces situations qui sont toujours complexes. Donc aujourd'hui, la loi ne nous permet pas de tuer les malades, d'acter leur mort, elle nous autorise à limiter certains traitements, et parfois à les soulager, au prix, parfois, peut-être, du risque de les faire mourir. Je l'ai fait encore récemment. Un monsieur âgé, atteint d'un cancer du poumon, étouffant, violait tellement il manquait d'air, suppliant d'être soulagé, informé et conscient que j'allais mettre en place un traitement qui pouvait malheureusement avoir comme effet secondaire de bloquer sa respiration, mais dont l'objectif était de faire en sorte qu'il ne touche plus, qu'il n'ait plus cette sensation d'étouffer. Nous avons mis en place cette sédation. Il est effectivement mort, mais il est mort dans un délai qui laisse penser que ce n'est pas le médicament qui l'a fait mourir. Parce que si ça avait été le médicament, il serait mort rapidement après l'introduction de cette seringue électrique. Et en réalité, il est mort plusieurs heures après. Donc il est mort de sa belle mort, mais soulagé. Mais ce jour-là, effectivement, j'ai risqué quelque chose. L'objectif était vraiment de soulager cet homme. Voilà ce que, aujourd'hui, la loi nous autorise de faire. Mais certains ne se satisfont pas de ces limites. Certains ne se satisfont pas de ces limites parce que, pour eux, dans leur représentation, tout homme doit avoir la possibilité de pouvoir choisir, éventuellement, lorsqu'il est confronté à des souffrances physiques ou psychiques qu'il juge intolérables, pouvoir choisir que quelqu'un l'aide à mettre fin à ses jours. Voilà. Alors, on peut discourir longtemps sur le fait que ce soit juste ou pas. Il n'empêche qu'il y a des personnes qui sont dans ces représentations-là et que nous faisons société ensemble. Et d'ailleurs que lorsque nous questionnons les Français, vous le savez bien, une majorité d'entre eux sont dans cette posture qui est de vouloir qu'on puisse abréger leurs souffrances si elles étaient jugées insupportables. Lorsqu'on réalise des sondages sont très variables, bien sûr, suivant la façon dont on pose la question. Et fondamentalement, est-ce qu'ils ont une valeur, ces sondages, parce qu'on se projette dans des situations dans lesquelles on n'est pas, et nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a des paroles de bien portant et des paroles de malade, et que ce ne sont pas les mêmes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si on fait un référendum, il y a toute chance que l'euthanasie soit admise. Et en l'occurrence, ça fait déjà de très nombreuses années que c'est le cas. Alors, je voudrais vous inviter à aller regarder ce qui se passe à côté, ailleurs, puisqu'on nous dit que c'est mieux ailleurs. Alors, qu'ils sont modernes, eux. Alors, je voudrais assez rapidement balayer la situation, enfin balayer. Oui, balayer, parce que le temps qui nous est imparti n'est pas très long. La situation de différents pays, je commencerai par la Belgique. Voilà, en Belgique, après les Pays-Bas, mais plus proche de nous, le 28 mai 2002, il y a une loi qui a autorisé l'euthanasie. C'est une loi qui ne modifie pas le code pénal. En fait, je dis des bêtises, elle n'a pas autorisé l'euthanasie, elle l'a fait en sorte que les médecins ne soient pas poursuivis lorsqu'ils la pratiquent dans certaines circonstances. Voilà, donc l'euthanasie en tant que telle est toujours interdite, mais sauf que lorsqu'elle est pratiquée suivant certaines circonstances, les médecins ne sont pas poursuivis. Les conditions, il faut que la personne soit majeure, et capable, c'est-à-dire capable d'exercer son jugement, et consciente. C'est également un majeur ou mineur anticipé. Il faut que la demande soit volontaire, elle soit répétée, qu'il n'y ait pas de pression extérieure, et qu'on soit vraiment confronté à une situation médicale sans issue, générant une souffrance physique ou psychique. Voilà. Que ce soit dans le cas d'une pathologie accidentelle, donc pas une pathologie évolutive, ou une pathologie grave et incurable amenant inéluctablement à la mort. Ou alors, si le patient n'est plus conscient, qu'il en ait fait mention dans une déclaration que s'apparentant à nos directives anticipées remontant à moins de 5 ans. Il faut que la demande soit datée, écrite, datée et signée. Elle est bien sûr révocable à tout moment. Et plusieurs entretiens sont réalisés avec un médecin préalablement pour s'assurer que la personne est vraiment volontaire, que sa demande est vraiment constante, qu'il a bénéficié de tous les recours possibles pour être soulagé, l'équipe de la douleur, l'équipe de soins palliatifs. Voilà. Et qu'un second médecin indépendant valide le fait qu'effectivement, il est bien dans ce positionnement que de vouloir qu'on mette fin à ses jours. Il faut qu'il y ait un délai d'un mois entre la première demande et la réalisation de l'euthanasie. L'euthanasie est réalisée par les médecins. C'est un acte médical et donc c'est nos confrères belges que nous avons pu rencontrer. Ils mettent très étonnamment, et c'est culturellement visiblement très différent de nous, toute leur savoir et toute leur capacité pour faire en sorte que ce geste soit le, entre guillemets, le plus efficace possible avec le moins d'effets secondaires pour le patient, si ce n'est que ça lui retire la vie. Mais ils y mettent véritablement, ils y mettent toute leur conscience professionnelle, c'est étonnant. Et nous, qui sommes bien sûr en France dans un positionnement très différent, ils vivent très mal cette espèce d'opprobre de la communauté palliative française notamment, et de façon générale européenne, sur leurs pratiques. La loi prévoit qu'il doit y avoir un contrôle systématique de la réalisation de ces euthanasies a posteriori. Le médecin doit remplir un document dans les 4 jours qui suivent l'euthanasie pour vérifier que tous les éléments y sont, et une commission se penche pour vérifier dans un délai de mois si l'euthanasie a été faite dans de bonnes conditions. Voilà. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il y a très très peu de situations qui ont fait l'objet de dénonciations de la part de cette commission de contrôle. Bien sûr, le médecin conserve une clause de conscience. Aucun médecin n'est tenu de participer à un acte d'euthanasie s'il ne le souhaite pas. Et s'il ne le souhaite pas, il doit le signifier au patient et transférer ce dernier à un confrère qui pourra le faire. Déjà, ça en soi, c'est quelque chose qui est difficile. Je trouve, c'est un aparté que je fais, parce que la clause de conscience, elle existe aussi dans les autres pays. Mais si c'est la clause de conscience, c'est dire « je ne vais pas le faire, mais je vais vous indiquer quelqu'un pour le faire », ça équivaut pour moi à quelque chose de difficile. Je me vois mal dire « écoutez, monsieur, vous voulez vous tuer, je ne vais pas pouvoir vous dire, vous jeter sous le train, mais en revanche, je vais vous dire à quelle heure passe le suivant pour que vous puissiez vous y mettre ». Moi, je pense que la clause de conscience, ça va au-delà de ça, ça doit pouvoir aller aussi à dire « écoutez, je ne le fais pas, maintenant il vous appartient de trouver ». Les lieux où cela se fait. Ce qu'il faut observer, c'est que, curieusement, en Belgique, la plupart des euthanasies sont faites en Flandre et pas en Wallonie. comme quoi il existe véritablement des critères culturels dans le positionnement de nos confrères belges. En Suisse, l'euthanasie est illégale. Surtout, voilà, arrêtons de nous faire dire des choses et n'importe quoi. En Suisse, l'euthanasie est illégale. Et l'aide au suicide est interdite, sauf si celle-ci est accordée sans motif égoïste. Alors, ceci vient d'une histoire qui remonte au début du siècle, je crois. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont suisses dans la salle qui pourront m'en dire davantage. Mais qui répond à une histoire qui a eu une importance considérable en Suisse, qui était à peu près l'équivalent de l'affaire Dreyfus chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un fait que les Suisses sont des soldats combattants, tout le monde a son arme chez soi, des paysans combattants, et un officier de l'armée suisse, pour une raison d'honneur, à qui on avait retiré son fusil et qui voulait se suicider, a demandé à son voisin son arme pour le faire. Et il s'est suicidé. Donc ce voisin était inquiété, et tout un débat s'est instauré dans la société suisse pour savoir si ce voisin avait eu raison ou tort de prêter son arme pour que l'autre se suicide. Et en fait, tout l'honneur du paysan soldat s'est trouvé opposé aux règles simples d'humanité. Et dans ce contexte avec la culture suisse, on a estimé que dans ces conditions, puisque le voisin n'avait pas vraiment d'intérêt à ce que l'autre se suicide, finalement il n'a pas été inquiété, il n'a pas été condamné. Et la position suisse tient uniquement de cette histoire-là, et ce n'est plus réquestionnable aujourd'hui. Donc ce n'est pas du tout un progrès de gens qui seraient soi-disant en progrès par rapport à nous, ça vient d'une histoire qui leur est propre. Donc en Suisse, l'euthanasie est interdite, mais le suicide assisté est autorisé. D'ailleurs, en France, je vous rappelle que c'est la provocation du suicide qui est interdite, mais il n'est nullement dit dans notre code pénal que l'aide au suicide soit interdite. C'est l'incitation, la provocation au suicide qui est. Donc il n'est pas sûr du tout que quelqu'un aujourd'hui qui aiderait quelqu'un à se suicider soit nécessairement condamné au vu du code pénal, parce que les éléments, les articles manquent. En Suisse, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État n'est absolument pas impliqué dans l'organisation du suicide assisté. Ce sont des associations qui s'en occupent, plusieurs, singulièrement deux, Exit, et Dignitas. Et seulement dans deux cantons, que sont le Valais et le canton de Vaud. Voilà. Alors, je vais aller vite, parce que je pense que Jean-Baptiste va me faire des gros yeux. Pour dire simplement, et ça, c'est important de rentrer vraiment dans l'organisation, c'est qu'il faut que les malades aient une capacité déterminante, de discernement, qu'ils soient atteints d'une maladie organique incurable, qu'ils aient des souffrances intolérables, que leurs demandes soient répétées. À ce moment-là, il y a un médecin d'une association qui fait une ordonnance d'un produit létal à absorber par la bouche. Et finalement, c'est un accompagnant bénévole de ces associations qui va intervenir auprès de la personne pour lui remettre ce produit et l'accompagner dans son absorption et accompagner ses proches s'il s'y trouve, dans un lieu qui aura été choisi par la personne. Le plus souvent, c'est la maison, le domicile, mais il est arrivé que les personnes choisissent de mourir dans un hôpital, exposant du coup l'équipe soignante à ce choix et ne leur demandant pas la possibilité ou pas d'être d'accord. Les médicaments qui sont administrés par voie orale, alors qu'en Belgique c'était par voie injectable, ce sont des barbituriques, à des doses tout à fait colossales. Voilà, il leur est remis un médicament pour empêcher les vomissements une demi-heure avant l'absorption, pour être sûr qu'ils ne le vomissent pas, et un peu d'alcool au même moment, pour être sûr que ça favorise l'absorption digestive du produit. La perte de conscience survient en quelques minutes, la mort en 30 minutes, entre 30 minutes plutôt et 24 heures, en moyenne 2 heures. Il peut arriver qu'il y ait des effets secondaires qui apparaissent, des ronflements, des vomissements, des convulsions, et certains patients ont pu être emmenés secondairement en urgence après avoir été fait ce choix-là, ce qui a amené les équipes d'urgence à être dans de grandes situations d'ambiguïté, puisque lorsque on leur ramène des patients qui ont essayé de se suicider, ils les réaniment, bien sûr. Sauf que là, on leur demandait de ne pas les réanimer, donc ils étaient un peu perdus. Je vous parle des choses parce que c'est comme ça qu'elles vont se vivre dans notre pays si on va sur cette voie-là. Ça nous glace d'effroi peut-être, mais c'est la réalité telle qu'elle va se décider dans notre pays, suivant les termes de ce qu'on va nous proposer au mois de juin. En Suisse, Exit n'accepte pas le tourisme de la mort. N'aide à se suicider que des, pardonnez-moi, n'aide à se suicider que des patients, que des personnes suisses. En revanche, Dignitas accepte quiconque, y compris des Français, pas seulement pour des pathologies incurables, mais aussi pour du vieillissement, pour du polyhandicap. J'ai oublié de dire évidemment qu'en Belgique, il y avait deux jumeaux qui avaient une maladie générative oculaire et qui ont fait le choix tous les deux à 50 ans de se faire euthanasier avant de perdre la vue alors qu'ils n'avaient aucun trouble. Pour revenir à la Suisse, Dignitas se fait rémunérer bien sûr au prétexte du remboursement de ses frais de l'ordre de 8000 euros l'injection, l'administration du produit. Aux Pays-Bas, c'est assez semblable en Belgique, il y a une loi qui date du 12 avril 2001, donc vous voyez un an plus tôt qu'en Belgique. Mais en fait, aux Pays-Bas, pendant une trentaine d'années déjà, il y a eu une pratique d'euthanasie qui s'est instaurée et pour laquelle la société néerlandaise a été tolérante, puisque un premier cas avait été discuté devant une cour en 1973. Voilà. La loi néerlandaise dépénalise. Alors, je crois que c'est très important ces mots-là. On ne légalise pas. On dépénalise. Mais regardez comme la frontière est mince, puisque par exemple en France, l'euthanasie n'est toujours pas légalisée. L'avortement n'est toujours pas légalisé. Il est dépénalisé. Mais tout le monde parle du droit à l'avortement. Ce n'est pas un droit, c'est simplement un crime qui n'est pas poursuivi. Mais regardez comme dans l'esprit de nos contemporains, le passage se fait. Donc là, aux Pays-Bas, l'euthanasie n'est pas acceptée, elle est simplement dépénalisée, et pareil, les médecins ne sont pas poursuivis s'ils respectent des critères dits de minutie, c'est le terme utilisé aux Pays-Bas. Alors je ne vais pas prolonger ces critères, mais ils existent. Il existe à peu près aux Pays-Bas 3700 euthanasies par an. Voilà. Il faut dire, et c'est important de le dire, parce que c'est un argument qu'on a souvent avancé, que si on commençait à ouvrir les vannes de l'euthanasie, on risquait de voir euthanasier de plus en plus de personnes et de plus en plus de situations. Ce n'est pas vrai. Du moins, ce n'est pas vrai dans ces pays-là. Le nombre d'euthanasies semble relativement stable au fil des années, depuis 10 ans. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'elles n'ont pas fait diminuer le nombre d'euthanasies clandestines, parce que c'était aussi un des arguments de nos partisans français de l'euthanasie, qui veut dire il existe déjà des pratiques d'euthanasie, encadrons ça par la loi pour éviter qu'elles se fassent n'importe comment. Et bien la loi belge ou la loi néerlandaise a permis de dépénaliser l'euthanasie, mais n'a pas fait diminuer le nombre d'euthanasies clandestines. Voilà. En revanche, ce qu'on sait, c'est que nous disons, beaucoup d'arguments vont dans le sens de « mais si on accepte l'euthanasie pour des patients en phase terminale de maladie incurable, pourquoi pas ou finalement l'étendre à d'autres patients ?» Et ça, on sait que c'est vrai, puisque par exemple, la loi belge a fait l'objet de 25 dépôts de projets de loi pour essayer d'étendre l'euthanasie à un certain nombre de personnes, notamment les patients psychiatriques et les personnes mineures. Voilà, donc ça, c'est effectivement vrai. Dernière situation que je voulais évoquer avec vous, c'est l'état de l'Oregon aux États-Unis. Voilà, où il y a ce qu'on appelle l'Oregon's Death with Dignity Act, qui date de janvier 2006. Là, il n'est valable que pour les patients résidant en état d'Oregon, mais sans préciser depuis combien de temps. Les malades doivent être en phase terminale d'une maladie incurable. Là encore, le médecin prescrit un produit létal que le patient s'administre lui-même, donc ce n'est pas l'euthanasie, là c'est du suicide assisté. Ça c'est du suicide assisté, donc retenez, la Suisse c'est du suicide assisté, l'Oregon c'est du suicide assisté, les Pays-Bas et la Belgique c'est l'euthanasie, c'est pas pareil. En Pays-Bas et en Belgique, le suicide est interdit. Voilà. Dans l'Oregon, il y a à peu près 60 personnes par an qui décèdent de cette façon-là. Et ce qu'on a observé, c'est que la moitié des personnes qui se voyaient remettre le produit en question ne l'utilisaient pas. Ils l'emmenaient avec eux au domicile, ils savaient qu'ils l'avaient. Il avait en soi, visiblement, des fonctions de réassurance. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et si je vais conclure par là. Vous n'entendez pas? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, chacun a pu entendre parler du rapport Sicard. Hein, Didier Sicard est l'ancien président du Comité national consultatif d'éthique. Et il a été chargé par le ministre, par le président François Hollande de remettre un rapport sur la question de l'euthanasie. La mission Sicard, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un certain nombre de débats publics, et c'est dans ce cadre-là, monsieur, que vous avez pris la parole pour témoigner. Ce que dit le rapport Sicard, dont il faut bien comprendre que c'est le fruit d'un travail de réflexion de personnes ayant des orientations différentes, c'est que le rapport se rejette la question de l'euthanasie qu'il vit comme une forme de barbarie et de perversion de la médecine. Elle rappelle qu'il existe une utopie à résoudre par une loi la grande complexité des situations de fin de vie. Le danger de franchir la barrière d'un interdit. Et aussi questionne la pertinence d'établir une loi pour des situations jugées finalement très peu nombreuses. Mais si toutefois il devait y avoir une évolution de la loi, dit le rapport avec beaucoup de précaution, elle envisagerait dans deux directions. La première serait de rendre les directives anticipées obligatoires, alors qu'aujourd'hui le médecin obligatoire, c'est-à-dire que le médecin se devrait de respecter ce qui est écrit dedans, alors qu'aujourd'hui le médecin garde une relative capacité de pouvoir encore ajuster au gré de ce qu'il perçoit de la situation. Et deuxièmement, de pouvoir effectivement pratiquer dans certaines situations une sédation terminale, ça veut dire un endormissement du patient à la fin de sa vie, sous-entendu, y compris si ça doit hâter sa mort. Ces propos ont été repris par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui aussi vont pas dans ce sens-là, mais dans une formulation très maladroite, où on ne sait plus très bien si la sédation proposée a pour intention première de tuer le malade, ou si c'est encore une fois un effet secondaire involontaire. Voilà, nous en sommes aujourd'hui là. Les questions qui se posent sont les suivantes. Nous allons avoir au mois de juin une proposition de loi sur l'euthanasie. Je voudrais juste dire en aparté que Jean Leonetti vient là à l'instant de déposer lui aussi, en essayant de prendre court le gouvernement, une proposition de loi dans laquelle il instaure le respect absolu des directives anticipées et la possibilité d'étendre la sédation dans certaines circonstances. Je pense que c'est un acte plus politique qu'autre chose pour essayer de rester maître du débat. Mais il n'empêche que nous allons avoir une proposition de loi au mois de juin. La question qui se pose, c'est oui ou non, modifions-nous la loi telle qu'elle est actuellement? Est-ce que nous en restons au terme de la loi Leonetti? Est-ce que, comme certains le voudraient, nous allons aller plus loin? S'il est reconnu la possibilité d'une assistance au suicide et ou d'une aide à l'euthanasie, comment va-t-elle s'organiser? Qui va se charger de la mettre en pratique? Est-ce que c'est la société civile, à travers des associations privées, comme en Suisse? Est-ce que c'est l'État, comme en Belgique ou aux Pays-Bas? Si c'est l'État, comment va-t-il l'organiser? Il existe en France un principe qui est l'égalité d'accès aux soins pour tous. Si demain l'État se met à organiser l'euthanasie, il va falloir qu'il puisse trouver dans chacun des hôpitaux de tous les départements de notre pays des médecins capables de réaliser cette euthanasie, de même qu'on doit pouvoir trouver un centre d'orthogénie dans tous les départements, puisque c'est fait partie des droits entre guillemets que les patientes peuvent réclamer. Il va falloir organiser cela. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'État soit en capacité d'affirmer qu'il puisse disposer de suffisamment de médecins pour pouvoir organiser de telles pratiques dans tous les départements de notre territoire. Ensuite, la grande question aussi qui se pose, c'est la clause de conscience. Pour qui? Jusqu'où? Pour quels intervenants? Le médecin? Les soignants? Le pharmacien? Ensuite, les questions aussi qui se posent sont, qu'en est-il si les médecins sont impliqués dans cet acte? Parce que si il y a cet acte qui se fait, que ce soit suicide ou euthanasie, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui vienne valider la demande dans sa constance, dans la capacité de la personne de décider, dans le fait que tout est utilisé, et fort à parier que ce soit les médecins de soins palliatifs qui sont souvent bien placés, qui vont devoir mener ces évaluations. Qui de nous va vouloir le faire? Personnellement, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, qui va organiser ces critères de minutie et les vérifier si tant est qu'on s'oriente vers cela? Et enfin aussi, quel risque pour notre médecine? N'y a-t-il pas là l'objet d'une perversion en demandant à la médecine et aux soignants dont le mouvement a toujours été de soutenir le mouvement de la vie, de cette fois-ci de s'inscrire dans un geste contraire? Et je terminerai mon propos par une aventure qui m'est arrivée il y a peu de temps, enfin, je dirais une aventure, c'est un euphémisme, d'une patiente que je suis allée visiter à la demande de son médecin et de ses proches parce qu'elle souffrait beaucoup, et lorsqu'elle m'a vu arriver, elle m'a dit « Oh non docteur, pas encore, pas tout de suite, j'ai encore à vivre un peu ». Elle avait pensé que je venais la tuer. Si nous commençons à rentrer, nous, soignants, dans ce rapport avec nos malades, si les malades se mettent à avoir peur de nous au point qu'ils craignent qu'on les tue, alors je ne suis pas sûr qu'on puisse garantir l'avenir de notre médecine. Voilà. J'en resterai là et je vous laisse maintenant le soin de réagir. J'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse par rapport à ce que vous me dites. Je ne connais pas la situation de votre père et je ne peux pas statuer sur la foi d'un témoignage rapporté comme celui. Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas nécessaire forcément d'avoir un cancer pour bénéficier de soins palliatifs. Il suffit d'être dans un état de souffrance avec des patients âgés dont on sait aussi qu'ils sont probablement en fin de vie. Voilà, quand on est très âgé, on n'a pas souvent une seule pathologie, on en a plusieurs. Et l'ensemble de ces pathologies retentit sur votre qualité de vie au point que parfois les jours en sont comptés. Et donc les soins palliatifs ont tout à fait prétention à intervenir là aussi. Maintenant, s'il s'agit que d'un problème de douleur, exclusivement lié à la maladie de Paget, une équipe de la douleur peut tout à fait être sollicitée. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que les ressources en soins palliatifs ne sont pas toujours pleinement disponibles et les études ont montré en particulier que pour les résidents d'EHPAD en maison de retraite, il y avait un sous-recours aux équipes de soins palliatifs comme si c'était logique quand on était vieux de mourir et sous-entendu de souffrir. Vous pouvez faire valoir la loi. La loi est très claire. Elle garantit l'accès aux patients aux mesures appropriées pour le soulagement de sa douleur et son accompagnement. Si vous avez le sentiment que tous les moyens ne sont pas développés là, vous vous devez de l'écrire et de le signaler à la direction de votre établissement, voire d'en faire un signalement à la direction territoriale, l'ARS. Mais voilà, y a aujourd'hui, quand même, on doit pouvoir, en tapant parfois un peu du poing sur la table, réclamer l'accès au soulagement. Il est garanti par la loi. Et gare aux médecins qui résisteraient, parce que si effectivement il y a des dépôts de plainte, les juges et des affaires qui sortent en ce moment, elles sont peu nombreuses, mais elles commencent à sortir, regardent s'il y a eu évaluation de la douleur, à quelle fréquence, qu'est-ce qui a été fait en face, est-ce que les médicaments ont été prescrits, est-ce que les posologies ont été corrigées, et si ce n'est pas le cas, les sanctions tombent. Sans doute pas encore assez, mais ça commence à sortir.
Si j'ai bien compris, vous avez dit que les médecins ont le droit aujourd'hui de suspendre l'hydratation et l'alimentation d'un malade. Donc il meurt de quoi ? De soif, de malade ?
Non. Alors, ils suspendent l'alimentation et l'hydratation artificielle. Artificielle, ça veut dire qu'on utilise des médicaments, c'est-à-dire une perfusion, c'est un médicament, ça suit le circuit du médicament. Les poches d'alimentation qu'on fait passer par les sondes ou en intraveineux, ce sont des médicaments. Alors, enfin, si on arrête l'alimentation et l'hydratation, les patients meurent de déshydratation et de dénutrition, ce qui n'est pas la même chose que de mourir de faim et de soif. Quand on est âgé ou quand on est en fin de vie, les malades, généralement, n'ont pas soif. On se bagarre sans cesse avec eux pour les faire boire, malgré le fait qu'ils ne boivent plus suffisamment. La sensation de soif n'est plus du tout ressentie de la même façon. Elle est émoussée dans la plupart des cas. Je dis bien dans la plupart parce que ce n'est pas vrai dans tous les cas. Et ce qui garantit souvent l'absence de sensation de soif, c'est de maintenir une muqueuse buccale humide. Donc de multiplier des soins de bouche avec des produits appropriés. Si on fait cela, si au lieu de mettre des perfusions, on fait des soins de bouche avec toute une série de substances que nous avons pour maintenir une atrophicité de la bouche, les patients, dans la plupart des cas, n'ont pas soif. Parfois, on voit des patients qui têtent. Et là, on se questionne sur un éventuel sentiment de soif. Et à ce moment-là, s'il y a le moindre doute, on met la perf. Pour la faim, c'est pareil. Les gens, en fin de vie, n'ont pas faim. Les familles, souvent, essayent et eux détournent le visage ou repoussent la cuillère. Voilà. Donc, quand on ne mange pas, on n'a pas faim. Généralement, d'ailleurs, tous les gens qui font du jeûne le savent, et moi qui ai fait de la médecine humanitaire, les personnes en Afrique avec des gros ventres, dénutries à l'extrême, il faut se bagarrer avec eux pour les faire manger, parce que la nature est ainsi faite que quand on maigrit, on sécrète des substances anorexigènes et qu'elles suppriment la sensation de faim. Donc les gens meurent de dénutrition et pas de faim. La grande question aujourd'hui, c'est, alors je rentre dans des choses un peu techniques, c'est que souvent on maintient une perfusion et on arrête l'alimentation. Sauf que du coup, la dénutrition, eh bien ça prend des semaines avant de pouvoir emporter quelqu'un. Voilà. Et donc, la prescription d'une perfusion, qui est une prescription médicale, prolonge l'agonie. Alors que si on considère que c'est l'évolution naturelle de la maladie qui fait que la patiente n'est plus capable de déglutir, et donc de s'alimenter, de s'hydrater, et qu'on s'abstient de mettre des perfusions d'alimentation, d'hydratation, et qu'on fait des soins de bouche, la personne va mourir à ce moment-là de déshydratation en quelques jours. Et donc, l'évolution de la maladie, l'agonie, entre guillemets, ne durera que quelques jours. Dans certains nombres de cas, nous nous autorisons, si c'est la demande du patient, à accompagner cela d'une sédation. Je me souviens d'un patient qui avait toute sa conscience, qui avait une maladie de Charcot, donc ce qu'on appelle une sclérose latérale amyotrophique, une maladie qui paralyse l'ensemble du corps. La personne avait toute sa conscience, elle est arrivée au bout de sa maladie, au sens où elle était totalement paralysée, elle ne pouvait plus respirer, elle ne voulait pas être trachéostomisée, elle ne se supportait plus vivre comme cela, elle a demandé, elle n'était plus en capacité de déglutir, elle était alimentée de façon artificielle, elle a demandé à ce qu'on arrête l'alimentation et l'hydratation en pleine conscience, que nous avons fait. Comme elle était très anxieuse et craignant de ressentir des effets secondaires, elle nous a demandé de l'endormir, ce que nous avons fait. Monsieur.
Je voulais vous demander en Belgique et en
Je ne peux pas vous garantir cela, mais dans ce que j'entends ou ce que je sais, je ne pense pas qu'il y ait tourisme de la mort aux Pays-Bas et en Belgique. En revanche, excusez-moi, on observe curieusement un grand flux de patients âgés des maisons de retraite de Belgique et d'Allemagne et de Pays-Bas vers l'Allemagne par crainte d'être euthanasie.
Mais si c'est eux qui décident en Belgique.
Alors, en Belgique comme aux Pays-Bas, ce sont les patients qui décident. Les critères de minutie disent bien qu'il faut que la demande soit volontaire, qu'elle vienne de quelqu'un qui a la capacité de décider, c'est-à-dire qu'il ait son jugement, de mots qu'il ne soit pas atteint d'une maladie d'Alzheimer, par exemple, qui affecte totalement son jugement, voilà, et que cette demande soit réitérée et constante. Parce que les critères de minutie ne sont observés qu'a posteriori. C'est-à-dire que le médecin envoie un rapport et la commission contrôle le rapport. Alors, aux Pays-Bas, c'est une commission régionale. Il y a 5 régions, il n'y a pas de commission nationale, c'est une commission régionale. Et la commission juge sur dossier. Le médecin, il écrit ce qu'il veut dans le dossier. Il avait besoin de soins de bouche, d'avoir une hydratation de sa bouche. Il avait un symptôme qui était la soif. Vous l'avez traité. C'était juste. Les soignants auraient dû le faire. Il faut quand même écouter tout ce qui est dit, et je pense que les deux témoignages sont intéressants à écouter. Il y a des soignants, et en particulier en gériatrie, qui se donnent un mal de chien dans des conditions absolument difficiles, alors qu'elles sont si peu nombreuses, maintenir les qualités de soins optimum pour leurs résidents. Ça, c'est vrai. Et effectivement, ça les fait, d'abord, elles sont souvent victimes elles-mêmes d'une certaine forme de maltraitance institutionnelle, parce qu'elles devraient être beaucoup plus nombreuses, ou nombreux. Et effectivement, ça leur est difficile d'entendre ça. Mais on ne peut pas ne pas effectivement constater que... Mais pas seulement en EHPAD, madame. En service d'aigu, on observe aussi, et c'est souvent d'ailleurs... Enfin, c'est souvent... Moi, il m'est arrivé d'observer que des patients âgés en EHPAD sont bien pris en charge, et quand on les met en service d'aigu, on les voit revenir avec les escarres, on les voit revenir avec des bouches rôties, voilà. Donc, il y a des lieux où il y a des soins qui sont bien faits, des lieux où c'est voilà, plus aléatoire. Il ne faudrait pas que cette loi vienne mettre monter, entre guillemets, les usagers et les soignants les uns contre les autres. Ils doivent nous imposer une grande vigilance envers ces patients dans une grande précarité. On devrait faire le choix, effectivement, de mettre en place des moyens, si nous le pouvons, pour faire en sorte que la fin de vie soit davantage accompagnée, que les patients bénéficient des soins de confort nécessaires et que leur famille soit accompagnée. Aujourd'hui, force est de constater que l'essentiel de notre énergie mentale et psychique, on la déploie pour discuter de cette situation d'euthanasie qui concerne que quelques centaines ou quelques milliers de cas par an.
Bon, on va devoir clore là ce débat. Je remercie les trois orateurs. Je pense que c'est aussi intéressant et ça donnera lieu à beaucoup de réflexions. Et je vais laisser la parole à Étienne Dandry, ici devant, donc, qui est le représentant local d'Alliance Vita, avec qui, pour d'autres problèmes, nous travaillons de concert.
Bonsoir à tous. Donc, je suis Étienne Dandry, délégué départemental d'Alliance Vita. Je viens ce soir vous proposer une action de manière à ce qu'à l'échelle européenne, nous puissions ensemble défendre l'embryon humain. Alors, vous le savez peut-être, à l'échelle européenne, il y a un budget de 50 millions d'euros qui est alloué à la recherche sur l'embryon humain. C'est injuste pour plusieurs raisons. Injuste évidemment parce qu'on utilise l'embryon humain, l'humain comme matériau de recherche. C'est injuste aussi parce que ça oblige des États membres de l'Union européenne qui interdisent sur leur sol la recherche sur l'embryon humain à la financer chez leurs voisins européens. La recherche sur l'embryon humain, vous le savez peut-être aussi, est aussi quelque chose qui est inutile. Inutile parce qu'elle a montré qu'elle n'avait produit aucun résultat, contrairement aux recherches alternatives, qui sont des recherches éthiques. Et simplement, je vous rappellerai que les cellules IPS, ou cellules reprogrammées, sont une recherche éthique couronnée par un prix Nobel de médecine, et qu'aujourd'hui au Japon, nous avons des essais cliniques pour soigner la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Contrairement à la recherche sur l'embryon humain qui n'a produit à ce jour aucun résultat thérapeutique applicable ou aucun essai clinique valable. Ce que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est une initiative qui est lancée en France, qui est lancée à l'échelle européenne, pour demander à ce que l'Europe donc cesse de financer la recherche sur l'embryon humain. Donc c'est décliné, c'est une initiative qui porte le nom de One of Us, donc en français Un de nous, qui en France est portée par Alliance Vita et la Fondation Jérôme Lejeune, et qui reçoit soutien de nombreuses associations, dont les AFC qui ont relayé notre action. Je pense que vous l'avez probablement vu dans différentes publications des AFC. Cette pétition, donc c'est une pétition en termes techniques, ça s'appelle une initiative citoyenne européenne. Donc, disons, cette pétition doit recueillir 1 million de voix à l'échelle européenne, ce qui est tout à fait possible. Et elle prend la forme de...
Ça a déjà été lancé par Internet.
Oui, exactement. Oui. Alors, donc, cette pétition prend la forme de ces feuillets papier. Et sur chaque feuillet, vous êtes invité à... Il y a la place pour 3 signataires. Trois signataires par feuillet papier. Cette pétition, je disais, c'est européen, donc c'est extrêmement encadré au niveau des lois européennes. Et c'est la raison pour laquelle, pour comptabiliser votre voix, il est impératif de mentionner un numéro de pièce d'identité valable. Donc, c'est-à-dire un numéro de carte d'identité ou un numéro de passeport. C'est quelque chose qui est obligatoire du fait de la réglementation européenne. ça a comme corollaire que le traitement, évidemment, se fait dans des conditions qui sont extrêmement encadrées, puisqu'il y a des données qui sont personnelles dessus. Et dans tous les cas, au plus tard 18 mois après réception de la pétition, l'ensemble des pétitions sera détruit. Donc cette pétition est disponible sur les feuillets papier. Je vous propose de la signer à la sortie. Elle est aussi disponible sur Internet et vous pourrez récupérer des feuillets comme ceci qui vous donneront l'adresse sur Internet. Ce qu'on vous propose, c'est de le signer à la sortie. Nous, on s'occupe après de couper les envois pour éviter des frais multiples. J'attire juste votre attention sur le fait que certains d'entre vous ont peut-être signé ceci, qui est « Vous trouvez ça normal » de la Fondation Jérôme Lejeune. Si vous l'avez fait, c'est extrêmement bien, mais c'est aussi totalement complémentaire et ce n'est pas la même pétition que celle-ci. Vous trouvez ça normal était destiné à nos représentants français, à nos élus français, alors que cette initiative citoyenne européenne qu'on vous propose à la sortie est pour l'échelle européenne, donc vous l'avez compris. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos éventuelles questions et vous pouvez me faire la sortie.
Est-ce qu'on a un recul sur l'effet sur le personnel américain, pratique,